buenos días.
Accent d'Europe, Laurent Berthoud.
Bonjour à tous. Le pouvoir central espagnol serre la vis. 13 hauts responsables de l'exécutif séparatiste de Catalogne ont été arrêtés alors que la région a prévu la tenue d'un référendum sur son indépendance le 1er octobre prochain. Des Catalans qui s'intéressent de très près à l'exemple tchèque. La Tchéquie et la Slovaquie ont cessé de former un seul et même État le 1er janvier 1993, il y a bientôt 25 ans. Un quart de siècle après, la fin de la Tchécoslovaquie est toujours considérée comme un exemple de partition pacifique, Alexis Rosenzweig.
Ce que la Slovaquie a réussi à faire, nous y parviendrons également. C'est ainsi que le nationaliste catalan Jordi Pujol voyait les choses il y a quelques années, alors qu'il était déjà retiré de la vie politique. Ceux qui dirigent aujourd'hui la région de Catalogne semblent également être inspirés par le divorce tchécoslovaque, souvent appelé le divorce de velours, en raison de son caractère non violent, alors que le ton monte à nouveau entre Madrid et Barcelone. C'est le représentant de la Catalogne en Europe centrale qui vante dans la presse slovaque les vertus d'une séparation claire et nette. « Quand je suis à Bratislava, je suis là pour apprendre », dit Adam Casals, qui constate que cette séparation a été bénéfique pour tout le monde. Pour ce qui est du domaine linguistique, il est vrai que la différence entre les langues tchèques et slovaques est à peu près équivalente à la différence entre le castillan et le catalan. Pour le reste, et le représentant catalan en convient lui-même, il est difficile de comparer le sort d'une entité multiculturelle du centre de l'Europe après la chute du mur de Berlin à la situation actuelle d'une région d'Espagne en quête d'indépendance. S'il y a bien un aspect que l'ambassadeur officieux de la Catalogne trouve admirable, c'est l'état des relations qu'entretiennent aujourd'hui Prague et Bratislava. Nous voudrions avoir les mêmes rapports à l'avenir avec nos amis espagnols, dit Adam Casals. Sur ce point, pas vraiment de doute possible, les rapports entre Tchèques et Slovaques sont excellents. D'ailleurs, si l'on s'en tient au niveau politique, c'est un Slovaque qui est aujourd'hui le favori pour prendre la tête du prochain gouvernement tchèque. Et c'est une Slovaque qui est depuis 3 ans maire de Prague, la capitale tchèque.
Ich habe mich einiges in meinem Leben getraut. Mein Job an den Nagel gehängt, um Politik zu machen. Für die AfD.
Plus que 4 jours avant que les Allemands ne se rendent ce dimanche aux urnes, une campagne qualifiée bien souvent de morne, tant la CDU, le parti d'Angela Merkel, semble parti pour une large victoire. Autre facteur de ces élections législatives sans enjeu apparent, la perte de vitesse du parti populiste de l'AFD, l'Alternative pour l'Allemagne. Après ses nombreux succès électoraux sur le plan régional, ce parti, créé il y a tout juste 4 ans, ne profite plus des craintes suscitées par l'arrivée de plus d'1 million de réfugiés au cours de l'année 2015. C'est un reportage de Julien Méchaussy.
Place du marché de Torgau, petite ville de la Saxe, dans l'est de l'Allemagne. Angela Merkel est en pleine campagne électorale et doit une fois de plus faire face à un accueil peu chaleureux. Armés de sifflets, plusieurs dizaines de sympathisants de l'AFD sont venus crier leur colère et scandent à l'unisson « Merkel muss weg, Merkel doit partir ». Si ces images sont reprises en boucle par les télévisions allemandes, elles ne doivent cependant pas faire oublier que l'AFD plafonne autour de 10% dans les sondages, bien loin des scores de 2016, proche de 20% dans plusieurs régions. Pour Martin Klausch, politologue à l'Université libre de Berlin, les raisons de cette chute s'expliquent par la reprise en main opérée par Angela Merkel et son parti de la CDU sur la question des réfugiés.
Les sondages le montrent clairement, une majorité d'Allemands fait de nouveau confiance à la CDU pour non seulement gérer l'arrivée des réfugiés, mais aussi pour les intégrer. Une confiance que le parti avait pourtant perdue. Nous ne sommes plus dans la situation où tous ceux qui étaient contre la politique d'accueil tournaient le dos à la CDU. Le parti a réussi à se réapproprier un thème politique laissé jusqu'ici à l'AFD, trouver des solutions aux défis des réfugiés.
Au cours de la campagne, Angela Merkel n'a eu de cesse de répéter son message. Ouvrir les frontières en 2015 a été la bonne décision, mais cela ne se reproduira plus jamais. Une position renforcée par d'autres signaux forts, comme les expulsions récentes de demandeurs d'asile afghans, objectif de la CDU, couper l'herbe sous le pied de l'AFD. Une méthode qui semble payer au vu des sondages et qui oblige les cadres de l'AFD à jouer la carte de la provocation. Comme il y a quelques jours lors d'un débat télévisé, Alice Weidel, désignée aux côtés d'Alexander Gauland pour mener la campagne, quitte le plateau en direct, excédée par les questions jugées trop partisanes des journalistes. Un éclat qui ne doit rien au hasard, selon Martin Klaus.
C'est une stratégie qui repose sur les éléments suivants. Se poser en victime du système, mais aussi tenir des propos très provocateurs, puis les relativiser après avoir obtenu l'attention médiatique. Par exemple, lorsque Alexander Gauland lance que le joueur de l'équipe nationale de football d'origine ghanéenne, Jérôme Boateng, ne pourra jamais être un vrai Allemand, sans oublier la dernière provocation de Gauland qui a affirmé que les Allemands pouvaient être fiers de leurs soldats lors des deux guerres mondiales, ce qui va bien sûr à l'encontre de tout le travail de mémoire réalisé jusqu'ici.
Une stratégie qui essaye également de faire oublier les mois de guerre intestine qui ont miné le parti et sa crédibilité auprès de l'électorat, l'autre grande raison du recul de l'AFD. Frauke Petri, ancienne figure de proue du parti, a ainsi été mise à l'écart au profit d'Alice Weidel et Alexander Gauland, tous deux représentants d'un courant souvent qualifié d'extrême droite. Une étiquette que refuse cependant Frauke Petri, qui attend son heure.
Ce procédé ne poursuit qu'un seul objectif, diffamer le rival politique pour l'enfermer dans la controverse. Avoir recours à ses moyens et ne pas se confronter sur les contenus, c'est ça être antidémocratique. On pourrait aussi dire fasciste. Nos rivaux qui se plaisent à dire que nous sommes les fascistes essaient de nous exclure du débat politique avec des arguments usés jusqu'à la corde. Ce sont eux et ceux qui reprennent ce discours qui se comportent de manière fasciste, pas nous.
Contrainte de se poser en victime des médias et de l'establishment politique, l'AFD inquiète un peu moins aujourd'hui. Pourtant, les élections de dimanche prochain seront bien historiques. Pour la première fois dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne, un parti qui tolère dans ses rangs des idées d'extrême droite fera son entrée au Bundestag, le Parlement allemand.
Du soleil toute l'année et du vent à revendre, la Grèce a tout ce qu'il faut pour produire de l'électricité à base d'énergie renouvelable. Pourtant, le pays exploite peu ses ressources naturelles illimitées, peu sauf sur l'île de Tilos, au fin fond de la mer Égée, non loin des côtes turques. D'ici fin septembre, elle devrait produire 85% de son électricité grâce à une éolienne et un parc photovoltaïque, mais surtout une innovation importante qu'on observe de très près en Europe, un système qui permet de stocker l'électricité. Charlotte Sivnar a fait le voyage.
Je suis Statis Kontos, conseiller de la maire de Tilos. Là, nous nous dirigeons vers le parc photovoltaïque. Nous allons nous arrêter pour que je vous explique et ensuite nous irons voir l'éolienne.
La route serpente au milieu des buissons épineux qui couvrent les collines arides de l'île de Tilos. Au bout de 10 minutes, on aperçoit une dizaine de grands panneaux bleus qui prennent le soleil sur la droite.
Voilà le parc photovoltaïque. Vous voyez, il n'est pas très étendu comparé à ce que l'on voit d'habitude à l'étranger. Il a une puissance nominale de 400 kW. C'est petit, mais c'est idéal pour Tilos. Combiné à l'énergie éolienne, on aura une puissance nominale d'environ 800 kWh et cela couvrira environ 80 à 85% des besoins de l'île.
La route continue jusqu'au nord de l'île, là où est implantée l'éolienne. Ici, le vent souffle avec force, mais un autre critère est entré en jeu pour le choix du lieu. Alors que l'éolienne vert clair apparaît se détachant sur le fond bleu de la mer, Stasis Kondos pointe du doigt vers le ciel à quelques centaines de mètres de là.
Vous avez de la chance. Ça, là-bas, je pense que c'est un faucon en train de chasser. Regardez là, il y en a un autre. Ça doit être son petit.
Les oiseaux ont joué un rôle dans le choix de l'emplacement de l'éolienne.
La municipalité a fait faire deux études environnementales et elle a changé deux fois de lieu pour ne pas déranger les oiseaux qui chassent.
L'île est répertoriée comme zone naturelle protégée Natura 2000 et accueille plus de 150 espèces d'oiseaux. Retour à Livadia, le port de Tilos. Maria Kama, la mère, n'est pas peu fière de ce projet. Avec le soutien de l'Université technique du Pirée, l'île a remporté l'appel d'offres du programme européen pour la recherche et l'innovation Horizon 2020 face à 86 candidats. La mairie a obtenu 15 millions d'euros pour un projet plus que nécessaire, selon Maria Kama.
Nous n'avions pas de station de production d'énergie sur l'île. L'électricité vient de Kos, grâce à des câbles souterrains qui passent par Nisiros, puis arrivent ensuite à Tilos. Nous avions beaucoup d'heures de blackout, jusqu'à 7, 8, voire 9 heures quand il y avait des dégâts sur le câble ou quand il y avait une avarie sur la station de Kos ou celle intermédiaire de Nisiros. On avait des problèmes énormes. Mais le plus important, croyez-moi, c'était les fluctuations du courant. L'électricité variait de façon brutale, ce qui causait des dégâts énormes pour les entreprises et les particuliers de l'île. Dans la plupart des maisons, il a déjà fallu changer l'ensemble des équipements électriques. Dans les entreprises aussi, il a fallu les remplacer à de nombreuses reprises.
Pour mieux expliquer les enjeux du projet, Maria Kama décide d'appeler le PDG de Nice, l'un des 13 partenaires européens du projet et un des leaders grecs des énergies renouvelables. Cette société a fourni gratuitement l'éolienne et les panneaux solaires. Yorgos Kalavroudiotis explique que ce qui a attiré le groupe, c'est la possibilité de tester sur l'île des prototypes de batteries de stockage d'électricité et le logiciel de gestion des données, développé spécifiquement pour le projet, une innovation importante. Pour lui, les connaissances qu'ils retireront de ces tests grandeur nature n'auront pas de prix.
Pour les énergies renouvelables, la grande question est celle du stockage. Si on pouvait développer une batterie comme celle-ci qui puisse stocker de l'énergie et qui soit économiquement viable à grande échelle, les énergies renouvelables pourraient être la prochaine énergie principale utilisée par l'humanité. Nous travaillons sur cette base depuis longtemps et c'est comme ça que nous sommes arrivés à ce programme de l'Union européenne.
L'autre innovation, c'est que des compteurs électriques intelligents ont été installés dans tous les foyers, ce qui permet aux habitants de mieux gérer leur consommation. Mais pour Maria Kama, la maire, ce qui a vraiment changé, c'est l'évolution politique.
Quand on a intégré le programme, il n'y avait pas de cadre légal. Tilos a lancé le projet et ensuite les hommes politiques ont dû se dépêcher d'adapter la loi. Vous comprenez à quel point c'est important. Dans un pays où nous avons autant de soleil et de vent, ils n'étaient absolument pas prêts à développer ce genre de solution. Nous les avons mis en position de le faire et ils ont créé la loi.
L'inauguration est prévue le 17 octobre. À Tilos, la municipalité estime que tout sera prêt à temps pour la visite des représentants de la Commission européenne. Les panneaux solaires et l'éolienne sont prêts, mais les batteries sont encore en cours d'installation à cause d'une avarie sur le ferry qui devait les apporter. Même avec son propre courant, Tilos reste bien une île.
Les jeunes européens.
La chronique des jeunes européens.
Bonjour Eve Minot.
Bonjour Laurent.
C'était le grand feuilleton universitaire de l'été en France, les couacs du système APB pour affectation post-bac. En juin, plusieurs centaines de milliers d'étudiants étaient restés sur le carreau. Et en cette rentrée universitaire prochaine, il serait encore quelques milliers. Ailleurs en Europe aussi, les amphis commencent à être surchargés. Alors Eve, aujourd'hui, on va essayer de se montrer quand même positif. Et on va voir ce que ces étudiants recalés peuvent quand même faire pour ne pas perdre complètement cette année.
Oui, d'abord, la bonne nouvelle, c'est que tout n'est pas perdu. Laurent, vous avez raison de positiver. Déjà, en France, le système APB offre une dernière chance de trouver une université où s'inscrire à tous les étudiants bacheliers jusqu'au 25 septembre minuit. Il vous reste donc encore quelques petits jours pour tenter votre chance. Alors évidemment, les filières qui sont inscrites sont celles où il reste encore quelques places. Donc pas sûr que tout le monde y trouve son compte, mais on ne sait jamais. Certaines places ont peut-être été libérées en cours d'été par des étudiants inscrits dans le privé. En tout cas, c'est un bon moyen de se remotiver.
Alors, pour tous ceux qui ne trouvent vraiment pas de formation qui leur convienne ?
Alors, il existe évidemment une multitude de moyens pour se former en dehors des parcours classiques de la rentrée universitaire. La plupart des options se trouvent du côté du secteur privé, mais pas seulement. Les écoles privées n'ont donc pas fait le plein en juin. Elles ont parfois encore des places à pourvoir. Allez vous renseigner en fonction des secteurs. Commerce, communication, art, informatique. Elles sélectionnent la plupart du temps sur dossiers et entretiens. Tenez-vous prêt. Par contre, cela aura un coût. Tenez-vous prêt aussi. Car elles sont toutes plutôt chères, autour de 5000 euros par an.
Alors, une autre option qui demande d'avoir un petit peu de revenus également, c'est la préparation au concours.
Oui, si vous êtes en retard sur cette année, autant prendre un peu d'avance sur l'année prochaine. prochaine. Rien ne vous empêche de commencer à préparer les grands concours que vous souhaitiez passer l'année prochaine et que vous avez peut-être loupé cette année. L'alternative dans le secteur public, donc moins cher, serait de s'inscrire en auditeur libre dans l'université de son choix. Cela vous permettra d'accéder à tous les cours magistraux sans par contre avoir la possibilité de passer les examens qui sont eux réservés aux étudiants.
Une autre possibilité qu'on connaît assez peu, la rentrée universitaire décalée.
Oui, c'est devenu de plus en plus fréquent dans les universités françaises. Certains établissements ouvrent leurs portes à de nouveaux étudiants au moment du début du second semestre. Un bon moyen de commencer à valider quelques matières et alléger donc le programme de l'année prochaine. Déjà très répandu ailleurs en Europe, cette pratique devrait se banaliser en France.
Et puis bien évidemment, à l'heure d'Internet et du numérique, il existe en Europe une grande offre de cours à distance.
Cette fois-ci, pas besoin de strapontin dans l'amphi, tout se passe à la maison. L'organisme européen de l'enseignement à distance, l'EADTU, a lancé il y a quelques années déjà un nouveau site internet pour présenter toutes les formations en ligne disponibles en Europe. Il en existe au total plus de 1500, dont une grande partie en anglais quand même, ça mérite d'être souligné, à différents niveaux de formation, bachelor, donc les trois premières années, master ou MBA, et dans différentes disciplines comme le droit, le commerce, pour devenir ingénieur ou se former en sciences. Par contre, ces solutions nécessite beaucoup d'autonomie et de motivation. Toutes les infos à retrouver sur le site distancelearningportal.eu.
Et puis un autre choix, Eve, qu'on peut suggérer aux jeunes Européens qui souhaitent occuper cette année hors l'université, travailler.
Bien sûr, c'est toujours une bonne idée. D'abord parce que cela permet de découvrir le monde du travail pour certains. D'autres y verront un moyen de se faire un peu d'argent. Vous pouvez aussi, par exemple, chercher un contrat de professionnalisation plus souple que le contrat en alternance qui, lui, débouche sur un diplôme. Il vous permet quand même de vous former à l'exercice d'un métier concret en fonction des besoins d'une entreprise ou d'un secteur, tout en percevant un salaire.
Merci Eve Minot. À la semaine prochaine pour d'autres informations tout aussi positives, on espère.
À la semaine prochaine.
You look at what's happening in Germany. You look at what's happening last night in Sweden. Sweden. Who would believe this? Sweden.
Regardez ce qui s'est passé hier soir en Suède, une déclaration désormais célèbre de Donald Trump le 18 février dernier. Défendant son décret anti-immigration, il avait cité en contre-exemple les pays accueillant des réfugiés et cibles de terroristes. Sauf que le 17 février 2017, il ne s'est rien passé de particulier en Suède, ou plus précisément rien qui ne justifie les propos de Donald Trump, mais suffisamment pour en faire un livre et une exposition intitulée, bien évidemment, Last Night in Sweden, Anne-Françoise Hiver.
Ne s'est-il vraiment rien produit le 17 février 2017 en Suède? L'éditeur Jeppe Wikström est de l'avis inverse. Partout dans le pays, il s'en est passé des choses, scènes ordinaires, moments de grâce, qui isolés ne veulent pas dire grand-chose, mais ensemble donnent une image nuancée du pays, loin des clichés et des exagérations dont le royaume scandinave est souvent l'objet. Quelques jours après les déclarations de Trump, l'éditeur contacte une centaine de photographes professionnels et leur demande d'immortaliser ces instants. Seule contrainte, les photos doivent être prises entre 18h et minuit en mai et juin dernier. Des milliers de clichés sont ainsi rassemblés, un jury en sélectionne 200. On y voit des ouvriers sur un chantier, des ados qui traînent devant un centre commercial, des footballeurs, des choristes, des sirènes à l'entraînement, le départ d'un avion ramenant des réfugiés déboutés en Afghanistan. Pour financer le projet, une campagne de crowdfunding est organisée. En 7 heures, 10 500 euros sont collectés, 26 000 les jours suivants provenant d'une vingtaine de pays. L'historien Henrik Berggren signe la préface où il s'interroge sur la fascination pour le modèle suédois, ses forces, ses faiblesses. Le 7 avril, une attaque au camion bélier fait 5 morts dans le centre de Stockholm. Le projet aurait pu s'arrêter là. Trump n'avait-il pas finalement raison? Les participants ont décidé de poursuivre, convaincus qu'il fallait plus que jamais apporter de la nuance. Le premier exemplaire vient d'ailleurs d'être envoyé à la Maison Blanche. L'homme d'affaires Sven Hackströmer, qui a fait un don de 5000 euros, a rédigé la lettre accompagnant le livre. Il encourage Donald Trump à prendre la mesure des responsabilités qui découlent de sa fonction. D'autres exemplaires, pour le moment rédigés en anglais et en suédois, seront offerts aux membres du Congrès américain ainsi qu'aux eurodéputés.
Françoise Grelot a réalisé et mis en onde cette émission à retrouver sur RFI.fr à la page émission.